spirituel aujourd'hui, en ce 17 mars, c'est évidemment la fête de Saint-Patrick, l'apôtre de l'Irlande. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Pour raconter la vie de Saint-Patrick, il faut se référer au texte qu'il a laissé lui-même. Il y a deux textes, en particulier des confessions, un peu comme Saint-Augustin qui a laissé des confessions, comme j'espère que vous avez lu les confessions de Saint-Augustin. Eh bien, il y a des confessions de Saint-Patrick. Et c'est rempli de choses assez surprenantes, mais de très belles choses aussi. Et on retrouve en particulier les très belles choses dans ce qu'on appelle l'office des lectures, dans la liturgie des heures. Les prêtres lisent ça, beaucoup de laïcs de plus en plus, beaucoup de communautés religieuses, des sœurs aussi. Et aujourd'hui, la lecture est très belle, très très belle. Elle est écrite par Saint Patrick lui-même, que l'on appelle souvent Saint Patrice. Et je vous en lis un passage et je vous en lirai un autre plus tard. Voici la première partie de cette lecture, texte donc même de Saint-Patrick qui a vécu il y a très longtemps, 1500 ans. Alors je commence, sans relâche, je rends grâce à mon Dieu qui m'a gardé fidèle au jour de ma tentation, si bien qu'aujourd'hui je peux avec confiance offrir mon âme en sacrifice comme une hostie vivante au Christ mon Seigneur, qui m'a gardé dans tous les passages difficiles de ma vie. Et je dis, qui suis-je, Seigneur? Ou quelle est ma vocation pour que tu m'aies couvert de ta si grande divinité? Aussi aujourd'hui, parmi les peuples, je ne cesse d'exulter et de magnifier ton nom, où que je puisse me trouver, et pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les difficultés. Quoi qu'il m'arrive, de bien ou de mal, je dois en conséquence l'accepter d'une âme égale, et toujours rendre grâce à Dieu qui m'a montré comment avoir en lui une foi indéfectible et sans limite. Il aura aussi écouté ma prière, car mon désir, le voici, bien qu'incapable d'accomplir dans ces temps qui sont les derniers, une œuvre si bonne et si admirable, je souhaite parvenir pourtant à imiter ces hommes dont le Seigneur autrefois avait prédit qu'ils annonceraient son évangile en témoignage pour toutes les nations. Et c'est curieux que ce peuple, qu'il a, pour ainsi dire, presque fondé dans la foi, il y a donc 1500 ans, se soit répandu comme ça. Et qu'il soit si nombreux, même ici au Québec, même à Montréal, on a pu le voir hier, par les manifestations dans les rues. Pour raconter la vie, donc, de Saint-Patrick, je me référerai à sa confession, c'est-à-dire le récit de sa propre vie, son autobiographie, si vous voulez. Et elle tient du caractère légendaire. Savez-vous d'où vient le mot « légende » Au XIIe siècle, il fallait souvent être bien matinal pour entendre lire une légende. Vous direz comment ça, se lever de bonne heure pour entendre une légende? Mais oui, parce que le mot « légende » désignait alors, dans la liturgie, la leçon lue à l'office de matine. C'est ce que je viens de faire, j'en ai lu une partie de cette leçon lue à l'office de matine. C'est ce que je viens de faire. Et ça se levait, ça se faisait avant le lever du jour, les matines. C'était un office, disons, nocturne. Et legenda, c'est un adjectif verbal, neutre, pluriel, pour ceux qui connaissent le latin, du verbe latin legere, qui veut dire lire. Et ça signifie littéralement les choses qu'il faut lire. Des choses qu'il faut lire, tout simplement. Alors, on effectuait également ces lectures au réfectoire, dans les monastères, ou bien au chapitre des moines, là où ils se réunissaient pour recevoir des charges ou accuser leurs fautes. C'est ce qu'on appelle le chapitre, la salle du chapitre. Et ces textes-là relataient la vie du saint du jour. Et oui, comme je viens de faire tout à l'heure. Et ces textes Donc, il relatait la vie du saint du jour. On s'y donnait, évidemment, pour propos, d'édifier les assistants. Et puis, le caractère merveilleux souvent l'emportait sur l'exactitude historique, qui explique que le mot « légende » ou « legenda » ait pris peu à peu son sens moderne de récit où les faits sont embellis. Or, justement, j'ai choisi pour vous, dans les bollandistes, les grands écrivains des huit saints jésuites très savants, bien longtemps. Eh bien, j'ai choisi là-dedans une narration de la vie de Saint-Patrick où le merveilleux cohabite avec les faits historiques. C'est une légende. Patrick, dans sa confession, se donne les titres de Breton et de Romain. Il dit que son père, qui s'appelait Calpurnius, il était d'une bonne famille. Il raconte même que son grand-père était prêtre, que son père était diacre. Mais diacre un peu comme par habitude. Son père étant prêtre, il est devenu diacre. Et puis, la mère de Saint-Patrick, selon quelques-uns, s'appelait Concessa. Et elle était la nièce de Saint-Martin de Tours, dont je vous ai parlé le 11 novembre, hein, le fameux Saint-Martin de Tours, vous savez, celui qui a coupé son manteau, parce qu'il pouvait pas tout donner son manteau aux pauvres, parce que la moitié appartenait à l'armée. Alors, Saint-Patrick est né à Bonaventa Bernier, ce sont ses propres termes dans ses confessions, mais on ne sait pas où est situé cet endroit. Alors là, les gens se sont disputés, hein, les Irlandais, les Écossais, les Anglais et les Bretons, qu'on appelle souvent les Armoricains, ont décidé qu'il était né chez eux, dans chacun de ces pays-là. Il est cependant plus probable que Saint-Patrick soit né en Grande-Bretagne, chez les Anglais. On ne sait pas trop vers quelle année. Vers probablement 383. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. À l'âge de 15 ans, il aurait commis une faute, qu'il a pleuré toute sa vie. Ça va lui être ramené plus tard par un évêque qui lui en veut pour avoir agi un peu comme Monseigneur Romero, dont je vous parlerai lundi prochain, c'est-à-dire un évêque qui se tient debout devant les exploiteurs des vies humaines qui massacrent les gens et les chefs d'État qui sont indignes. Alors, c'était une faute qui n'était pas très considérable, mais elle va lui être remise sur le nez plus tard, alors qu'il sera un grand évêque. Il nous apprend encore que, jusque-là, il connaissait pas tellement Dieu, dans le sens que, non pas qu'il ne connaissait pas Dieu, mais ça veut dire que, je sais pas qu'il était païen, mais puisque ses parents étaient chrétiens, son père diacre, son grand-père était prêtre. Non, il veut dire qu'il avait mené une vie toute humaine, toute ordinaire, et puis que les malheurs l'ont rendu plus fervent. Il avait 16 ans. Quand des Scots, savez-vous ce que c'est des Scots? Les Scots, ce sont des Écossais qui ont chassé un peuple d'Irlande et se sont installés à leur place. Il y a bien longtemps, au début de l'ère chrétienne. Et puis, on les appelait les Scots hibernois, c'est-à-dire les Scots irlandais, si vous voulez. Parce qu'on appelle souvent aussi l'Irlande, à cette époque, l'Hibernie. H-I-B-E-R-N-I-E. Alors, ils font une irruption là où habite notre Saint-Patrick avec son père. Ils massacrent Calpurnius. Ils enlèvent Patrick avec plusieurs esclaves et plusieurs vassaux, des hommes dignes. Conduit en Irlande, vendu à un riche seigneur de ce pays, il a été réduit à garder les troupeaux. Il est devenu berger. Il était jeune, hein, il avait 16 ans. 15 ans, 16 ans. Alors, il a eu beaucoup à souffrir de la faim, puis de la nudité, les pluies, les neiges, les glaces, parce qu'en Irlande, il fait souvent très froid. Mais quel beau pays! J'ai eu la chance d'y aller. C'est de toute beauté, l'Irlande. Hein, et quel peuple intéressant aussi. Ils sont peu nombreux. La moitié, à peu près, de la population du Québec. La moitié. Ben oui, c'est pas plus nombreux que ça en Irlande, les Irlandais. Mais Dieu le soutient, ce pauvre Patrick. Et au cours de ces épreuves qui passe, ça le prépare évidemment à ces grandes fatigues que l'apostolat de la mission, parce qu'il sera un grand missionnaire, ça le prépare, et Patrick répond donc à la grâce, il se sanctifie. On dit qu'il se sanctifie, c'est d'après ces textes, par un esprit de prière constant. On dit qu'il était constamment, pour ainsi dire, en oraison. Jamais il ne quittait vraiment la présence de Dieu. Il s'appliquait même 100 fois par jour, et souvent la nuit, par des jeûnes volontaires, par une obéissance fidèle aussi, et à être en présence de Dieu. Il a mérité surtout le surnom de serviteur doux et paisible. C'est comme ça que les Irlandais l'appelaient. Et puis après 6 ans de cet esclavage, puisqu'il était réduit à l'esclavage, voilà que la légende nous raconte qu'un ange, et c'est peut-être possible aussi, dans une vision, lui dit de prendre la fuite sur un navire qui se trouverait prêt à partir, là, sur la côte d'Irlande. Alors notre saint obéit, et après plusieurs jours de marche, il arrive au port où un vaisseau va tendre ses voiles pour partir. Alors on refuse à bord de l'admettre parmi les passagers, sans doute parce qu'il est trop pauvre, mais comme il était déjà en route pour retourner en se résignant chez son maître qui en avait fait un berger, on dit que Dieu a touché le cœur des matelots, bien qu'ils aient été des païens. Ils l'ont rappelé, et puis ils l'ont reçu parmi eux, et au bout de 3 jours, on débarque en Grande-Bretagne, dans un lieu désert, et on erre là 27 jours sans pouvoir trouver de provisions. C'est un long jeûne. Et Patrice dit à ses compagnons que s'ils voulaient s'adresser à lui, ou plutôt avec lui, dirais-je, au Dieu des chrétiens, mais Dieu viendrait vraiment leur secours. Alors, ces païens-là se sont unis à Saint-Patrick. Vous voyez, ils commencent déjà à évangéliser. Et dès le jour même, ils ont rencontré, dit-on, un troupeau de porcs qui les a nourris jusqu'au moment où ils sont entrés dans le pays habité. Et la foi de notre Saint-Patrick n'a pas cessé d'être tentée comme ça pendant cette route difficile. On lui a présenté, pour apaiser sa faim, des viandes offertes aux idoles. Vous savez, c'est toujours le problème. Des viandes offertes aux idoles ne sont pas acceptables par un chrétien. Alors il refuse d'en manger. Il se sépare de ses compagnons, mais il a faim. Un jour qu'il prenait un peu de repos, une grosse pierre détachée d'un rocher tombe et était près de l'écraser. Alors il a eu recours à l'intercession du prophète Élie, dit-on, et puis il a échappé de ce danger. La pierre s'est arrêtée comme suspendue. On ignore combien de temps Saint-Patrick a joui de sa liberté, puis dans quel pays il a été de nouveau pris comme captif, parce qu'il était encore captif, mais cette captivité n'a duré que 60 jours. Et un ange du Seigneur lui avait d'ailleurs prédit. Et là, des Irlandais d'origine qui avaient été chassés par les Scots d'Irlande, c'est-à-dire des Pictes, qui l'avaient pris, l'ont vendu à des Gaulois, et ceux-ci l'ont amené à Bordeaux, en France. Et nous verrons la suite de cette étrange légende, qui est mêlée de choses merveilleuses, et vous allez voir comme Saint-Patrick devient une espèce de Oscar Romero, Monseigneur Romero, un homme courageux et solide. Et voilà que notre Saint-Patrick est encore réduit une forme d'esclavage auprès des Gaulois, cette fois-là, qui le mène à Bordeaux, mais il est mis en liberté, donc, au bout de 2 mois. Et il se rend auprès de Saint-Martin, son grand-oncle, l'oncle de sa mère, comme je vous ai dit au début, qui lui donne la tonsure, l'habit religieux, et le forme soigneusement, évidemment, à la science, et à une conduite de vrai chrétien pendant 4 ans dans sa retraite de Marmoutier, dont il reste des ruines, près de Tours. C'est à visiter cet immense monastère de Marmoutier autrefois. C'est le début du monachisme presque en France. Et puis il le renvoie en lui conseillant d'aller prêcher l'Évangile dans l'Irlande. Et de retour dans son pays, Patrick reçoit du ciel même l'ordre d'évangéliser l'Irlande, puisqu'il retourne en Grande-Bretagne. Dans une vision, un messager lui apparaît, comme venant de ce pays, de l'Irlande, qui lui apporte d'innombrables lettres, et sur l'une desquelles est écrit ces mots, « La voix des Irlandais ». Au même moment, il lui semble entendre des voix du côté de l'Irlande qui criaient bien haut, et comme s'il n'y en avait qu'une seule, « Nous te supplions, ô saint jeune homme, de venir et de marcher encore parmi nous. » Alors, c'est saint Patrick qui écrit ça dans ses confessions, il dit « Mon cœur fut vivement ému. » Et je ne pus en entendre davantage, alors je m'éveillai. C'est un beau songe. Il résut donc de se préparer à cette grande mission, en parcourant quelques églises, en conversant avec des hommes saints et savants. Et puis, il se fait d'abord le disciple de saint Paterne. C'était le premier évêque de Vannes, en Bretagne. Puis, il part pour Rome, finalement, centre de la doctrine et de la piété. Il visite en passant le monastère de Marmoutier, évidemment, à Tours, et puis le tombeau de son maître et parent Saint-Martin. Il étudie à Rome avec une grande application, les vérités chrétiennes profondes, puis la discipline ecclésiastique aussi, les lois, les règlements. Puis, Saint Jérôme le raconte de Fabiola, n'est-ce pas, dans les récits de Saint Jérôme, il a voulu visiter toutes les îles et toutes les solitudes voisines de la mer qui étaient peuplées de saints religieux, des anachorètes, des ermites. Et ces voyages ont duré 7 à 8 ans. Ensuite, notre saint Patrick se met sous la conduite de saint Germain d'Auxerre. Auxerre, c'est en France, n'est-ce pas? Et puis, ça s'écrit Auxerre, mais paraît-il que ça se prononce Auxerre, comme on dit Bruxelles. Et puis, il y est resté 18 ans. Longue préparation. Il se fortifie dans la science de la Bible, de l'Écriture sainte, dans la pratique de la vertu, évidemment. Et puis, on ne dit pas s'il a vraiment accompagné Saint-Germain d'Auxerre en Grande-Bretagne en l'année 429. Il est probable qu'il est allé pendant ce temps-là voir les saints solitaires de Lérins sur la côte d'Azur, hein, sur l'île de Lérins, et puis d'autres aussi en Provence, toujours dans le sud de la France. Et à son retour de Grande-Bretagne, Saint-Germain d'Auxerre conseille à Patrice, ou à Patrick si vous préférez, de commencer son apostolat le plus tôt possible, alors il l'envoie à Rome avec un saint prêtre. Puis des lettres de recommandation pour le pape Célestin, de qui il va recevoir la mission. C'est le pape qui envoyait à l'époque les grands missionnaires. Alors ce pape-là, lorsqu'il a su que le missionnaire Palladius, déjà envoyé par le Saint-Siège en Irlande, n'y avait pas réussi, il était mort en Bretagne, découragé, il acceptait avec empressement les offres de Saint-Patrick. Il l'ordonnait évêque. Et si, comme quelques-uns le prétendent, Saint-Patrick avait déjà reçu le caractère épiscopal d'un certain Amathée, bon, alors là, il en aurait fait plutôt un archevêque de toute l'Irlande, en lui changeant son nom en celui de Patrick, parce qu'avant de s'appeler Patrick, il s'appelait Maun, ou Maun, un peu comme Sean, M-A-U-N. C'est d'après un écrivain du 7e siècle. Ils l'ont donc envoyé dans l'île d'Irlande, chargé de vœux, de bénédictions. Puis il ne faudrait pas croire que Saint-Patrick a accompli tout ça sans difficulté. Sa famille, le clergé, lui ont exposé les dangers, les obstacles de son entreprise. Puis lui ont fait des offres encore bien plus avantageuses. Ils ont tout mis en œuvre pour le détourner de ce projet qui était dangereux, mais inutilement, car Saint-Patrick a abandonné généreusement sa famille, sa patrie. Il a vendu, comme il le raconte dans ses confessions, il a vendu lui-même, disons, sa noblesse pour civiliser, pour sauver une nation étrangère, les Irlandais, pour étendre la gloire de Dieu sur la terre. Un véritable esprit de missionnaire, c'est ça un missionnaire. Et comme ceux qui sont venus fonder ici notre pays au XVIIe siècle. Et ce fut dans ces grandes dispositions merveilleuses qu'il est passé en Irlande, où l'idolâtrie régnait presque partout, bien que le christianisme y avait déjà été établi. Or, notre saint Patrick avait alors 60 ans, n'était pas jeune. C'était en 432. Il va mourir à 80 quelques années. Alors, il nous était impossible de le suivre dans ses courses à travers l'Irlande. Ce serait trop long. Parce qu'il raconte ça en détail. J'ai tous les détails, je pourrais vous raconter ça pendant des heures, mais c'est pas très tellement intéressant de raconter toutes ces luttes, tous les triomphes. De toute façon, il a parcouru entièrement l'île d'Irlande, jusqu'aux endroits les plus reculés, à travers mille dangers. Il a adouci la férocité des Scots, là, les fameux Écossais dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avaient occupé, en chassant les Pictes, d'Irlande, ont occupé l'Irlande. Alors, il a adouci la férocité des Scots par ses bienfaits. Il a confondu des magiciens, et puis leurs chanteurs de longues histoires, les bardes, par des miracles continuels, puis par sa science. Il a enseigné comme un père, jusqu'aux lettres de l'alphabet, aux pauvres gens, les gens des classes inférieures. Et puis, il a été laissé jusque-là dans parmi ce peuple, d'une ignorance la plus complète, il a été laissé là comme un père, puis il tenait à les aider du début jusqu'au la vocation monastique qui viendra avec le temps, parce qu'il va susciter des moines. Il parvient ainsi à fonder plus de 300 églises, entre autres celle d'Armagh. Armagh, A-R-M-A-G-H, on voit ça souvent dans les nouvelles. Vous savez que c'est une petite ville de 14 000 habitants seulement. C'est là qu'est établi son siège, le siège de l'évêque d'Irlande. L'archevêque est encore aujourd'hui primat d'Irlande. Il y a d'ailleurs un évêque anglican aussi, là. Alors, il a consacré un grand nombre d'évêques, il leur donne plus de 3000 prêtres, dont un grand nombre sont honorés comme des saints. Il bâtit plusieurs monastères d'hommes et de femmes, de sorte qu'à lui seul, Saint Patrick, dans l'espace de 30 ans, on peut dire à peu près, là, cet homme a créé une nation, si on peut parler de la sorte. C'est à lui que nous devons l'Irlande, ce peuple qui, chose étrange, est cher à beaucoup de gens, hein, et qui est très admirable pour tous ceux qui aiment le courage puis la liberté. Hein. Ce peuple, quand il a trouvé sa liberté en 1922, a fêté ça aux États-Unis avec l'autre peuple, le peuple américain, qui avait aussi conquis sa liberté au 18e siècle. Et les Irlandais se sont sentis devenir américains au contact de cet idéal de liberté. C'est un peuple fier de sa liberté, on a pu le voir, dans les rues de Montréal. On le voit chaque année dans leurs manifestations. Et quant aux innombrables miracles de Saint-Patrick, je vais vous lire le texte du père Giry, des vieux textes de légende. Il y fit pendant 30 ou 32 ans des choses si prodigieuses qu'on aurait de la peine à les croire si l'on ne considérait que des peuples aussi barbares ne pouvaient être changés et amenés à la foi que par des actions extraordinaires et tout à fait surprenantes. Il a fait mourir, par sa seule parole, trois magiciens qui empêchaient la propagation de l'Évangile. L'un fut suffoqué en l'air par des démons, et l'autre consumé par le feu, et le troisième englouti sous la terre. Dans des étranges histoires, hein. Il a ressuscité, dit le vieux texte, là, plusieurs morts. Il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Il a guéri une infinité de malades. Il a chassé partout les démons des corps des possédés et des idoles. Il a transporté des rochers qui paraissaient immobiles. Il a fait naître des fontaines en des lieux arides où il n'y avait point d'eau. Enfin, il a opéré tant de merveilles et de si étonnantes qu'à peine en peut-on trouver de semblables dans tous les siècles précédents. Dans tous les siècles précédents, c'est une tradition populaire en Irlande que Saint-Patrick, par sa bénédiction, a délivré cette île, n'est-ce pas, de toutes les bêtes venimeuses. Vous savez l'histoire, hein? Il n'y aurait plus de serpents là-bas. Et la plus importante était la conversion de toute l'île qu'il a fait en peu d'années, obligeant même les rois à reconnaître la vérité de l'Évangile en Irlande. Je vous ai dit tout à l'heure que Saint-Patrick... Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que son désir, je vous ai lu ça au début, hein, son désir, bien qu'incapable d'accomplir une œuvre si bonne et si admirable, Saint-Patrick disait « Je souhaite parvenir pourtant à imiter ces hommes dont le Seigneur avait prédit qu'ils annonceraient son évangile en témoignage pour toutes les nations. » Eh bien, par la suite, on peut lire dans l'office des lectures d'aujourd'hui « D'où me vient cette sagesse ?» dit Saint-Patrick. Qui n'était pas en moi, car je ne connaissais pas le nombre de mes jours, et je n'avais pas le goût de Dieu. D'où m'est venu par la suite le don si grand et si salutaire de connaître Dieu et de l'aimer, au point de perdre patrie et famille, et de venir parmi les Irlandais prêcher l'Évangile. Oui, D'où vient que j'ai pu supporter les outrages de la part des incroyants, endurer la peine de ma pérégrination et de nombreuses persécutions, y compris l'emprisonnement, et renoncer à ma libération pour être utile aux autres? Et si j'en suis digne, me voilà prêt à donner, jusqu'à ma vie, sans hésitation et de très bon cœur, pour son nom. Oui, je souhaite le mettre à son service jusqu'à la mort, si le Seigneur me le permet. Car je suis infiniment débiteur à l'égard de Dieu, lui qui m'a accordé cette grâce exceptionnelle, de faire renaître en Dieu de nombreux peuples par mon intermédiaire, puis de les conduire à la plénitude de la foi. Oh, il m'a aussi permis d'ordonner en tout lieu des ministres, des prêtres, quoi, pour ce peuple, venu récemment à la foi. Ce peuple que le Seigneur s'est acquis des extrémités de la terre, comme il en avait fait autrefois la promesse par ses prophètes, et là il cite, « À toi viendront les nations des extrémités de la terre en disant, « Ainsi nos pères se sont procurés de fausses idoles qui sont sans utilité. » Et saint Patrick ajoute, et ailleurs, il cite encore, « Je t'ai placé comme une lumière pour les nations, afin que tu sois leur salut jusqu'au bout de la terre. » Et il termine en disant, « C'est là que je veux attendre la réalisation de sa promesse, car jamais il n'y faillit. Ainsi qu'il s'engage dans l'Évangile, Dieu s'engage, n'est-ce pas, dans l'Évangile, ils viendront d'Orient et d'Occident pour s'établir avec Abraham, Isaac et Jacob. » Il termine en faisant cette affirmation, « Nous le croyons, en effet, du monde entier viendront les croyants. » Et c'est un texte assez original, parce que du monde, les croyants irlandais se sont répandus dans le monde entier. Alors, saint Patrick devient très âgé, il écrit dans sa confession, toujours, qui est plus ou moins bien écrite, n'est-ce pas, une abrégée de sa vie, pour ne laisser aucun doute sur la pureté de ses motifs et de ses intentions, qu'il avait porté à entreprendre sa mission en Irlande. Et cet ouvrage qui respire, d'accord, une piété assez tendre, et plein de bon sens quand même, hein, et puis plein d'esprit, et même de feu à certains moments, comme vous avez pu voir, on y voit que l'auteur avait une humilité profonde et qu'il soupirait ardemment après le martyre et qu'il était parfaitement versé là, dans la connaissance de la Bible. Partout, saint Patrick fait l'aveu de ses fautes. Il ne se gêne pas. Et c'est pour ça que son ouvrage s'appelle « Confession ». Il y loue la grande miséricorde de Dieu, dont il avait si souvent éprouvé les effets, préférablement à plusieurs autres qui en auraient été moins indignes que lui. Il, comme je lis le texte que je viens de vous lire, puis il reconnaît qu'il avait eu plusieurs tentations, dont une des plus délicates avait été un grand désir de retourner dans son pays, puis d'aller dans les Gaules, là, aussi visiter les saints qu'il connaissait. Mais il ajoute qu'il a surmonté cette tentation par la crainte de perdre le fruit de ses travaux en Irlande, en abandonnant ce peuple, son peuple, et parce que le Saint-Esprit lui déclare intérieurement que Dieu ne veut pas qu'il sorte de l'Irlande. Il dit que, quelque temps avant d'écrire sa confession, il était arrêté avec ceux qui l'accompagnaient. On lui avait enlevé tout ce qu'il avait. On l'a retenu 14 jours dans les fers, emprisonné, pour avoir baptisé le fils d'un roi contre la volonté de son père. Alors il écrit, saint Patrick, « Chaque jour, je m'attendais à de pareils traitements et même au martyre, mais je ne redoutais aucun danger parce que mon espérance était dans le ciel et que je me jetais avec confiance dans les bras du Tout-Puissant. » Alors, il craint pas d'augmenter le nombre de ses ennemis. Hein. Il donne le baptême à une jeune fille noble, de bonne famille, très belle, en âge d'être mariée. Et quelques jours après, cette fille vient lui dire qu'un ange lui avait ordonné de consacrer sa virginité à Dieu afin de lui être plus agréable. Vous voyez, ça tient de la légende un peu, hein? Mais c'est possible. Alors, il en rend grâce au Seigneur, il reçoit lui-même les promesses, les vœux là, de cette épouse de Jésus-Christ, comme on dit, 6 jours seulement avant qu'il écrive ce fait dans ses confessions, hein? C'est ce qu'il raconte. Ce petit récit est précieux, c'est un document assez précieux, hein? Qui se trouve dans les Acta Sanctorum Martii. On peut lire, à la suite de ça, une lettre de saint Patrick où il s'intitule évêque d'Irlande, puis en cette qualité, il reprend une excommunie même, et voilà qu'il agit un peu comme Oscar, Monseigneur Oscar Romero. Il menace des peines éternelles s'il ne fait pénitence à le roi Corotique. Pourquoi? C'est que ce chef breton a fait une descente en Irlande. Ou il est monté en Irlande, si vous voulez. Il avait massacré plusieurs chrétiens le jour de la confirmation, imaginez. Puis il avait amené un grand nombre de jeunes captifs qu'il a vendus comme esclaves. Alors notre Saint-Patrick prend courageusement la défense de son peuple dans une lettre qu'il rend publique. Et puis, on a aussi là, les canons authentiques du premier concile tenus par Saint-Patrick. Ce sont des règlements pleins de sagesse. Il en assemble plusieurs autres aussi pour établir une bonne discipline dans son Église. Alors c'est donc un évêque courageux, comme tant d'évêques courageux à travers les siècles, comme notre Monseigneur Joseph Charbonneau ici, qui a tant lutté pour la défense des ouvriers de l'amiante. Et la sainteté de ses mœurs à Saint-Patrick, ben ça répondait à des actions qui étaient dignes d'admiration. On raconte qu'il récitait chaque jour tout le psautier de David. Il me semble que c'est un peu fort, hein? Et plusieurs autres prières avec une dévotion extraordinaire. Mais que sa vie ait été une vie de raison, c'est tout à fait possible. Ça existe encore aujourd'hui beaucoup, hein? Puis il s'appliquait à prier vraiment, à être en présence de Dieu. Il avait un si grand respect pour le signe de la croix qu'on dit qu'elle le faisait à tout moment sur lui. Et que lorsqu'il rencontrait des croix de chemin, comme on peut dire, il s'arrêtait, se prosternait à terre. Il les vénérait profondément. Jamais il ne voyageait le dimanche. Il était persuadé que le dimanche, ça devait être uniquement employé au culte de Dieu, par la paix intérieure. On a bien changé. Sa ferveur l'a porté un jour à entreprendre un carême semblable à celui de Moïse, d'Élie et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à jeûner 40 jours entiers, sans prendre aucun aliment. Alors Saint-Patrick s'est retiré sur le mont Croconaigle, le plus haut de tous ceux de l'Irlande. Et là, Dieu lui fait voir le fruit de ses travaux, le nombre immense d'âmes qu'il avait attirées à la conversion, à la libération, à la joie. Et comme les plus notables de l'île sont venus le trouver, alors, pour les exciter à une conversion parfaite, puis il leur permettre de persévérer dans la piété, il a touché la terre de son bâton, puis il est apparu aussitôt une grande profondeur, extrêmement obscure, d'où l'on entendait, paraît-il, des cris et des plaintes, comme de personnes qui souffraient de grandes peines dans le creux de la terre. C'est ce qu'on appelle le puits et le purgatoire de Saint-Patrick. On dit que les pénitents y entraient autrefois après beaucoup de préparations et de cérémonies pour satisfaire à la justice de Dieu, disait-on, pour leurs péchés. Alors les auteurs en ont parlé de façon très différente, c'est des vieilles légendes. Hein. Mais comme il est constant que cette dévotion est à présent bien changée puis que cette ancienne profondeur ne subsiste plus, alors je vous laisse le soin de croire puis de ne pas croire à ces histoires-là. Enfin, il a plu à Dieu de couronner les travaux de Saint-Patrick par une heureuse mort. Un ange lui en a apporté la nouvelle. Il lui est apparu au milieu d'un buisson ardent qui brûlait sans se consumer, hein, comme Dieu qui apparaît dans le buisson ardent à Moïse. Mais ce ne fut pas à Arma, dans la ville dont je vous ai parlé tout à l'heure, la ville primatiale, comme si elle était persuadée, mais dans un autre lieu appelé Dawn, et depuis s'appelle Dawn Patrick. Saint-Patrick est mort vers l'an 461. Il était né, d'après l'opinion la plus probable, on dit, en 385. Il aurait donc eu à sa mort environ 82 ans. Bon. Ses funérailles ne furent pas sans merveille, dit-on, raconte. On y a entendu chanter les anges. Et lorsqu'ils se sont retirés, ils ont laissé autour de son corps une odeur agréable, comme si on eût répandu des parfums les plus exquis. C'est curieux. Un soir, je mangeais chez une amie. Elle avait une icône qu'elle vénérait avec beaucoup de piété. Et alors que l'on mangeait, une odeur étrange s'est répandue dans la pièce. J'ai senti ça. Est-ce de l'illusion de ma part? Je ne le crois pas. Et ça s'est répété un peu plus tard dans la soirée. C'est des choses curieuses que Dieu suscite autour des tombeaux des saints. Vous savez qu'autour de Saint-Charbel-Maclouf, c'est comme ça, et de plusieurs saints. Oh, ça semble curieux, on me dira que j'exagère, que je tombe dans la piétaille. Non, c'est pas ça. On dit aussi que pendant 12 jours, et autour de du tombeau, là, il n'y a pas eu d'obscurité, même dans toute la province autour. Et même que les ténèbres n'ont pas été aussi épaisses que d'habitude durant toute l'année. Et puis, comme Dieu a promis à Saint-Patrick que ceux qui seraient favorables à lui, puis des dévots de sa mémoire, là, et qui feraient quelques œuvres de piété en son honneur au jour de sa fête, le 17 mars, ben, ils obtiendraient miséricorde à l'heure de leur mort, puis ne périraient pas éternellement. Ça touche aux vieilles dévotions, puis aux vieilles superstitions. Hein. Mais pourquoi pas? Et puis, on dit que les Irlandais aiment beaucoup vénérer Saint-Patrick. Ils le vénèrent avec une énorme dévotion. Mais il faut dire que c'était un des plus grands missionnaires de l'histoire, hein, d'après ses confessions et d'après tous ses textes. Parce qu'avant d'être un homme d'action, Saint-Patrick est célèbre, c'est sûr, pour son austérité et sa prière continuelle. On dit de lui, je vous l'ai dit, que chaque jour il chantait tous les psaumes, les hymnes, même l'Apocalypse, et tous les cantiques de l'Écriture, qu'ils soient en voyage ou non. On lui attribue cette belle prière. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Ô Christ est le salut, que son salut soit toujours avec nous. C'est une belle prière de Saint-Patrick. Et de son amour pour Dieu a jailli, évidemment, son zèle pour la mission. On pourrait dire qu'il serait une sorte de patron des missionnaires. Et je vous rappelle ce que je vous ai lu tout à l'heure. D'où m'est venu le don si grand et si salutaire de connaître Dieu et de l'aimer, au point de perdre patrie et famille et de venir parmi les Irlandais prêcher l'Évangile. Et si j'en suis digne, me voilà prêt à donner jusqu'à ma vie sans hésitation et de très bon cœur pour son nom. C'est une belle explication de la vocation, du don de soi-même à Dieu, dans le sacerdoce, l'épiscopat, ou dans la vie monastique, ou la vie religieuse, la vie de missionnaire. La liturgie du jour de la Saint-Patrick nous invite à prier ainsi. Seigneur, à sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui ont la joie d'être chrétiens d'annoncer aux hommes les merveilles de ton amour. C'est une très belle prière, je la répète. Les gens qui pensent que dans notre liturgie, dans nos prières, dans nos traditions, ne parlent pas beaucoup de l'amour de Dieu, qu'ils ont donc tort. Hein? Ceux qui craignent Dieu disent, on nous a enseigné un Dieu violent. Pourtant, cette raison est là depuis bien longtemps. Seigneur, Père, à sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui ont la joie d'être chrétiens d'annoncer aux hommes les merveilles de ton amour. Et en fait, la confession de Saint-Patrick rappelle les paroles de l'Écriture. Je t'ai placé comme une lumière pour les nations, afin que tu sois le salut jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Dans la collection publiée chez Desclés de Brouwer, Petite vie, c'est une série, n'est-ce pas? Petite vie de Saint-Patrick, ça existe, je ne l'ai pas, c'est par Frédéric Kursava. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ayant pas en main. Mais je vous la signale, pour ceux qui veulent compléter ça, c'est paru chez Desclés de Brouwer, ça se vend dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Au Québec, il y a beaucoup d'Irlandais, beaucoup sont devenus d'ailleurs francophones. J'avais 2 oncles irlandais francophones. Par alliance, évidemment. Ces Irlandais catholiques immigrés d'Irlande, qui sont venus parfois de France au Canada, qui ont été parfois prisonniers de guerre, sont formés l'un des peuples les plus importants du Québec et du Canada. Sous le régime français, il n'y a pas beaucoup d'Irlandais. Mais on a conservé quelques noms. Imaginez qu'en 1697, Je vous rappelle que la conquête des Anglais, c'est longtemps plus tard, 70 ans plus tard. Alors donc, en 1697, il y a exactement 300 ans, sur l'escadre de d'Iberville, qui se rendait à la baie d'Hudson, l'aumônier de bord était le prêtre irlandais qui s'appelait Fitzmaurice ou Fitzmaurice, qui avait sans doute fait ses études théologiques à Douai, dans le nord de la France. Monsieur de la Poterie, qui est auteur du récit de cette expédition de d'Iberville, a noté qu'en sortant du détroit d'Hudson, et c'est une histoire étrange, un Inuit, c'est-à-dire comme on disait dans le temps, un Esquimau, a consenti à monter à bord du bateau de d'Iberville, qui s'appelait le Pélican, hein, vous vous souvenez, et que, ayant aperçu du haut de l'échelle un homme habillé d'une soutane noire, c'est notre aumônier Fitzmaurice, il en a conçu une si grande frayeur qu'il s'est balancé et qu'il se jetterait en bas dans la mer, il avait peur de tomber. Il y a aussi Charles de McCarthy, ou McCarthy, hein, mais ça s'appelle McCarthy à la française, M-A-C-A-R-T-Y, né en 1706 et devenu capitaine du port de Québec en 1745, donc avant la conquête. Il était capitaine de vaisseau en 1757. Il a servi à la Nouvelle-Orléans, où il est mort en 1764, après la conquête. Il avait épousé à Québec, ça peut vous intéresser, quelques-uns d'entre vous, en 1737, Angélique Jeanne Guillemin. Il y a un troisième Irlandais aussi, Timothy O'Sullivan. Je prononce à la française parce qu'il paraît que la prononciation de ces noms irlandais est à peu près inimitable parce que c'est dans leur langue à eux, en gaélique, disons à l'anglaise Timothy O'Sullivan, mais ce O'Sullivan est devenu Sylvain. C'est l'ancêtre des Sylvains, comme Don Odule Sylvain, qui a été mon maître de novice à Saint-Benoît-du-Lac et qui est devenu abbé de Saint-Benoît-du-Lac pendant de très nombreuses années. S'il m'entend, je le salue, je l'ai beaucoup aimé comme maître des novices. Quel moine bon! Et donc, ce O'Sullivan, devenu Sylvain, était naturalisé à Québec le 7 mars 1724, en plein régime français. Il s'est distingué comme chirurgien et médecin du roi de France, et quelques années après, les hasards de la guerre entre la France et la Nouvelle-Angleterre ont amené des prisonniers. Le ministre a écrit à l'intendant Hocquart, « Ah, si les Irlandais catholiques conduits au Canada demandent à y rester, je ne vois aucun inconvénient de le leur permettre. » Le gouverneur de Vaudreuil écrivait le 12 septembre 1757, juste à la veille de la conquête, au ministre de la Marine, qu'il s'est trouvé des Irlandais, je cite, hein, qu'il s'est trouvé des Irlandais catholiques dans le nombre des prisonniers, se déclara entièrement détaché désormais du service du roi d'Angleterre. Qu'il est lui-même satisfait de leur conduite au point d'avoir formé une compagnie de 50 hommes. Que cette compagnie n'a pas été nourrie en vain, ayant aussi travaillé, croyez-le pas, ils ont travaillé aux fortifications de la ville de Québec. Ben oui, quand vous passez près des fortifications, dites-vous qu'il y a des Irlandais qui ont travaillé à là. Et puis le texte continue qu'il aurait pu la joindre, cette compagnie, ensuite aux troupes qu'il a fait marcher au Fort George et qu'il préfère la faire passer en France sur le bateau La Célèbre ou Le Célèbre, commandé par M. de la Jonquière, à qui il donne ordre de la remettre à l'intendant du port où il abordera en France. Le 13 mai précédent, chacun des soldats irlandais a signé son engagement de fidélité au roi de France. Trois Irlandaises et deux enfants les suivaient à bord. Et cette combinaison du gouverneur a sauvé la compagnie de la vengeance des vainqueurs en 1759 et en 1760. Ce fait était sans doute le point de départ d'une pure légende, encore une légende, qui s'est accréditée dans la suite au sujet d'un régiment irlandais versé dans les troupes du marquis de Montcalm. Sous le régime anglais, mais l'apparition des Irlandais catholiques remonte à 1811-1812, rattachée à l'élément écossais catholique, hein, dans la colonisation de la rivière Rouge par Lord Selkirk. Puis le premier contingent, au nombre de 90 ouvriers puis de 15 écrivains, car les Irlandais, ce sont souvent de grands écrivains, est arrivé à York Factory, à la baie d'Hudson, en 1811, un 24 septembre. Puis là, un petit groupe de non-Irlandais a été signalé. Les noms que je retrouve, Costello, Burke, Bourque, Green, McRooney, Walsh, Corcoran, comme notre chanteur irlandais national, McDonald, O'Rourke, avec le romanier, le prêtre Charles Bourke. Puis Miles McDonald conduit le parti à la Rivière Rouge. Ils sont arrivés en 1812. Puis un mois après, ils sont débarqués. Il y a un groupe qui est débarqué encore à York Factory, à la baie du Son. C'est un second contingent composé d'Irlandais, sous la conduite d'Owen Keaveney, comptait en réalité 11 Irlandais. Puis, en 1812-1820, des familles irlandaises qui ont commencé à se réfugier dans les provinces maritimes. Mais le curé Pinchot de Saint-Anne-de-la-Pocatière en a reçu beaucoup dans cette région. Et puis, il en est venu, en 1831, la province de Québec comptait déjà 40 000 Irlandais catholiques. Puis, l'année suivante, puis en 1834, le choléra, le typhus, a fait de nombreuses victimes. Et là, nous nous sommes occupés. Beaucoup de prêtres et de sœurs sont morts en s'en occupant. C'était terrible. Terrible. Environ 18 religieuses, 25 prêtres ont succombé à la tâche. Et dès 1850, l'exode d'Irlande a repris son essor. S'est prolongé jusqu'en 1900. Alors, nous avons eu beaucoup d'Irlandais qui sont venus ici. Beaucoup de francophones, mais malheureusement qui ne sont pas toujours bien respectés quand les manifestations irlandaises ont lieu dans notre ville française. C'est triste, c'est malheureux. Demandons à Saint-Patrick de nous donner le goût de la mission, le goût de changer le cœur des gens qui se sont plus ou moins égarés. Qu'avec lui, nous soyons confiants en Jésus-Christ et que nous sachions, comme lui, que l'Esprit-Saint peut s'emparer de nous et faire de nous vraiment des témoins. De vrais témoins du Christ dans ce pays qui se déchristianise malheureusement.